Alors, on n'a pas de questions. On va prier pour cette deuxième partie. Père, je bénis ton nom pour la suite de ce programme. Je te remercie pour ce second message qu'on va partager ensemble sur ton Église. Je prie que tu puisses encore nous guider. Nous voulons dépendre de toi parce que tu es le bon berger. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous ouvre les yeux. Père, encore une fois, sanctifie-nous. C'est pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, souvent les chrétiens font l'économie des prières. C'est quoi l'économie des prières? J'ai déjà prié, ça suffit. Je ne prie plus. Moi aussi, je faisais comme ça. On a déjà prié, c'est fini. Et on continue. Un jour, le Seigneur me disait, tu ne connais pas ce monde. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ce monde ici. Il n'y a pas la question d'économie des prières. C'est comme si on fait une banque de prières. Je vais prier pour mes 3 jours, prochains jours. Maintenant, je ne prie plus. Mais quelle histoire! Et de prier sans cesse. Tu vas sortir de la maison, tu vas descendre vers le bas, aller jeter les poubelles là-bas plus loin. Tu sors parce que les poubelles, c'est là, tu sors sans prier, sans se remettre entre les mains du Seigneur. On dit, c'est exagéré. Oh, c'est faux. Seigneur, je sors de ma maison, garde-moi. On ne sait pas ce qui va se passer devant nous. On ne sait pas ce qui va se passer demain. L'Église, le croyant, est un homme et une femme de prière qui prie sans cesse et qui se remet entre les mains du Seigneur. C'est ça l'Église, c'est ça les chrétiens qui prient, qui parlent au Seigneur. On ne fait pas l'économie des prières, pas du tout, mais on parle à notre Père qui puisse nous conduire. Tu vois chez le boulanger qui est à côté là-bas, tu dis, mais c'est le boulanger, il est à côté, je n'ai pas à prier. Souvent, nous prions quand je vais trop loin, je prie. Ce n'est pas juste. Même chez les boulangers, ça va chauffer. Remets-toi entre les mains du Père qui puisse te conduire. Souvent, il y a une phrase qui est bizarre. Tu étais dans un mauvais moment, mauvais endroit. J'entends souvent ça. Combien de mauvais moments, mauvais endroits, mais en priant, Dieu peut t'écarter de ça. Parce qu'il sait toutes choses, il peut t'écarter de ça. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est souverain. Tu vas au parking, prends ta voiture, remets-toi entre les mains de Dieu. Oh, je connais mon parking, c'est pas grave. Mais non, tu connais pas ce parking-là. Remets-toi entre les mains du Seigneur, qu'il puisse te guider. Sois un homme qui prie, et qui parle au Seigneur. C'est un homme de prière, une femme de prière. Nous prions quand c'est grand, nous prions pas quand c'est petit. Qui prie pour son petit café? Quand tu prends ton café, tu pries pour ça? Pas du tout. Oui, c'est le café, mais nous prions pour les grands repas. Il y a du riz, il y a un peu de la viande. Là, on prie pour ça. Pas pour le café, pas pour le croissant. Nous voulons prier par rapport à ce que nous voulons voir. Quand c'est petit, on ne prie pas. Quand c'est grand, on prie. Même ces petits cafés-là, rends grâce à Dieu, Père, tu m'as donné ce café, merci Seigneur. Il y a ceux qui n'ont pas. Merci, on va donner ce café. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on prie. Ton croissant le matin, jamais tu pries pour ça, tu prends, tu manges, c'est tout. Tu sais qui a fait le croissant? Tu sais ce qui est dedans? Pourquoi ne pas dire merci Seigneur pour ce croissant de ce matin? Purifie le Père Céleste, je prends ce croissant avec toi. Un frère a pris une fois de l'eau, il a demandé de l'eau à quelqu'un. Quand il l'a donné, il a pris, il a tenu le verre d'eau fraîche, c'était dans mon pays. Et puis il dit, Père, je te rends grâce pour cette eau que cette femme m'a donnée. Quand il a dit, amen, pas, ce verre s'est brisé. Il dit, mais c'est quoi ça? Cette femme dit, il y avait du poison dedans. Il dit, madame, je n'étais pas demandé de m'empoisonner. Il y avait besoin d'eau fraîche, c'est tout. Ce garçon de se fâcher, il lui a dit simplement, répands-toi. Priez sans cesse. Priez sans cesse. De tout ce qu'il peut avoir, remets ça entre les mains de Dieu. On achète la viande avec Lina au marché, on arrive. La viande fraîche, c'était une belle viande, c'était très bien. Je me dis, Julien, on va bien manger. Chers amis, la viande ne saignait pas. On l'a mis dans un sac, on arrive à la maison. Quand on a posé la viande, elle commence à saigner vraiment. À beaucoup saigner. Mais on l'a acheté chez les bouchers, c'était bien. Mais ça saignait vraiment. Alors on a eu peur. Je dis, mais c'est quoi cette viande-là? On a prié pour ça. On dit, mais on ne mange pas. Alors on est parti voir les messieurs. Et pendant qu'on marchait pour les rendre la viande, moi j'ai marché avec colère. Je dis, mais ces messieurs, c'est un bandit, j'étais en colère. Et j'amène la viande chez les messieurs, j'arrive. Pendant que je marchais avec le sac où il y avait la viande, j'arrive chez lui, ça ne saignait plus. Je dis, monsieur, quoi cette viande? J'arrive, je regarde les messieurs, je regarde ce n'était-là, je lui dis, mais c'est viande, je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils vendent ces messieurs? Ils vendent quoi? De la viande ou autre chose? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ici? La viande travaillait dans le monde des ténèbres. Alors je dis, messieurs, ta viande, quand je l'ai amenée chez moi, ça saignait. Il me dit, mais non, mais ça ne va pas. Mais les gars, ça ne saignait pas. Je dis, oui, à la maison, ça saignait là-bas. Il dit, mais tu es devenu fou. Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, bon, prends ta viande et l'argent, garde ça pour toi. Et je suis parti. Il dit, non, monsieur, mais dis, garde l'argent et la viande, garde tout. On est rentré à la maison. Pendant qu'on priait avec lui à la maison, Dieu nous a révélé, c'est que cet homme vend la viande, ce qu'il vend là-bas, sont des choses sacrifiées aux idoles, aux forces des ténèbres. Ceux qui mangent cette viande-là, qui ne savent pas, ils seront attaqués. Frères et sœurs, c'était terrible. Je ne vais pas vous faire peur. Pas du tout. Tu vois, c'est un poisson qui est tout frais. Oui, c'est frais. Mais pris pour ça avant de manger. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Ce n'est pas fini. Alors, on partait un jour avec un frère pour pouvoir évangéliser au marché. Chez nous en Afrique. Pendant qu'on allait, on regardait, on prêchait l'évangile aux gens, au marché. Et ce frère s'arrête sur une table. Il voit en dessous de la table des serpents qui tournent en bas de la table. Ce frère recule, mais qui sont ces serpents-là? Il y avait beaucoup de serpents sous la table, là où la femme vendait. Et ces serpents, on ne les voit pas. Il dit, frère, mais pourquoi tu recules? Il dit, mais j'ai des serpents. Il dit, mais toi aussi. Il n'y a rien, les gars. C'est la table qui est là toute seule, il n'y a rien. Il dit, oui, il y a des serpents. Alors ce frère avance, dit à cette dame, pourquoi tu aimes des serpents sous ta table? Pourquoi tu mets des serpents? Pourquoi tu vends au marché avec des serpents de force de ténèbres? Pourquoi tu fais ça? Cette dame qui dit, c'est pas ton problème. Et ça te concerne. Alors il dit, frère, annonce l'évangile. On lui a expliqué l'évangile. Il dit, écoutez, si on a vu ça, ben Jésus nous a ouvert les yeux. Alors change. Or, les gens qui achètent son poisson frais, c'est pas frais. Vous connaissez l'histoire de Obélix et tout ça? C'est pas frais, c'est frais. Ce n'était pas du poisson frais. Il y avait des forces du mal en dessous. Ceux qui vendent au marché, est-ce qu'ils ne touchent pas des choses occultes pour bien vendre? Est-ce que vous savez? Ce que tu achètes, prie pour ça. Ne dis pas, ah, je connais mon boucher, ah, je connais mon poissonnier. Ne dis pas ça. Tu achètes et tu pries avant de manger. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Tu achètes ta baguette, prie pour cette baguette, même si elle est chaude. Tu es pressé de manger. Seigneur, je te bénis pour cette baguette. Sanctifie-le. On achète une baguette avec Lina à la maison, on arrive, on achète la baguette. C'était tellement, on voulait la manger. Ça sentait bon. J'ai pris la baguette, j'ai dit, Seigneur, merci pour cette baguette. Quand je l'ai ouverte comme ça, il y avait une épingle à l'intérieur. Je dis, mais c'est quoi ça? Juste là où j'ai coupé, il y avait l'épingle. Et si je l'avais mangé? Chers amis, rendons grâce à Dieu en toutes les choses. Ne dis pas que toutes choses, en peu de quand je mange de nuit, je rends grâce. Quand je mange du café, je prends du café, pas de grande grâce. Quand je mange un peu du porc laqué, je rends grâce à Dieu. Mais non, c'est tout. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parce que le malin s'acharne contre nous. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Rendons grâce à Dieu. Je ne suis pas contre les gens qui prient comme ça. Satan n'a pas peur de ça. Il te regarde. Bon? Parle. Parle. Parle au Seigneur. Bénis ce que je vais prendre maintenant. Et sanctifie-le. Sanctifie-le. Alors changeons notre façon de faire. Demain, prie pour ton café. Quand tu vas au travail, tu le poses, tu prends ton café, bénis ce café-là. Ne le prends plus comme tu le prenais autrefois. Bénis ce café et prends-le avec action de grâce. Prends-le avec confiance. Prends-le. Par erreur, on a mis des produits dans une machine à café. Et tout ce qui prenait ce café avait mal au ventre. Un frère a pris ce café-là. Il a pris, je rends grâce à toi Seigneur pour ce café. Il prend son café. Lui, ça n'a rien fait. Son ventre était en paix. Et tous ses copains du travail, ils avaient mal au ventre. Ils avaient, ça ne marchait pas. Mais on a mal au ventre. Lui, il n'avait rien. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas mal? Mais j'ai pris du café. Mais pourquoi tu n'as pas mal? Mais parce que j'ai rendu grâce au Seigneur. Il a purifié le café. Tu connais qui veste la machine à café de ton travail? Toi, tu sais. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Bon, je dis que d'avoir peur, hein, sinon vous allez avoir peur de votre machine à café au travail. Mais rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous faisons. Et le Seigneur nous bénira. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous aime. Amen. Regardons l'Église maintenant. Et l'Église est une armée. Voilà cette armée. Quelqu'un, le Christ. J'aime la croix. J'aime la croix. Jésus, la Bible nous interdit de porter la croix ici comme je ne sais pas quoi. Non, des images taillées, non. Si on aurait porté une grande croix. Mais j'aime la croix. C'est là où on est libéré. Il fallait qu'il meure pour qu'on soit sauvé. Il meurt, nous, on n'en peut mourir. Il ressuscite, on a une nouvelle vie. J'aime la croix. C'est là où il a souffert, oui, mais c'est pour nous libérer. Et puis, la libération, il nous a fait gratuitement. Il nous libère gratuitement. Merci pour Jésus qui a donné sa vie ce jour-là. Merci Seigneur. Et puis, il nous donne l'armure. Donc, toute une arsenal d'armes spirituelles. C'est à partir de la croix. Il nous l'a donné. Il nous libère, il va nous armer. Parce que le combat va commencer. Et puis en cela, il y a l'alliance éternelle. L'alliance qui est là, une alliance éternelle qui est là pour nous, pour l'éternité. Il a fait l'alliance avec nous. Je vous dis quelque chose qui est personnel, mais une grâce que Dieu m'a faite il y a quelques jours. Il ne pleuvait pas, il faisait beau le matin. J'ai fini la prière et j'ai dit, bon, je sors un peu pour regarder un peu le soleil. Tout d'un coup, c'était clair. Tire le rideau, regarde à l'extérieur. Ça m'a foudroyé cette histoire. Tire le rideau, il ne pleut pas. Le soleil s'élève, il est beau, il fait beau. Et pendant la prière, il me disait, souviens-toi de la croix. La croix, l'alliance entre toi et moi, le Créateur, mais par le Christ Jésus, mon Fils. Souviens-toi, chers amis, je tire le rideau, je regarde l'arc-en-ciel. Aussi beau, je dis, mais il ne pleut pas. C'était clair là-devant. Et bien, je l'ai pris en photo. J'ai essayé cette photo-là. J'étais tellement émerveillé. Alors, j'ai rentré vite prendre mon appareil photo. Et quand j'ai revenu prendre la photo, ça commençait à disparaître. J'ai pris ça vite, vite. Ça a été disparu. J'arrive, c'était là, c'est clair. Après, quand je suis parti prendre la photo, quand je suis rentré, et ça disparaît. Pendant que ça disparaissait doucement, il me disait, tu sais ça, l'alliance que j'ai faite à l'époque de Noé. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Et j'ai pris la photo. C'est parti. Il ne pleut pas. Souvent, ça sort quand il pleut, non? Mais il pleuvait, il n'y avait pas de nuages. C'était clair. L'arc-en-ciel est sorti. Pour montrer que je sais ce que tu vis. Je sais toutes choses. Voici l'alliance que j'ai faite. Je suis un Dieu des alliances. Frère, sœur, tu es pressé pour Jésus-Christ. Jésus t'aime tellement. Et Jésus est vrai. Jésus est vivant réellement. Jésus parle encore aux gens aujourd'hui. Ne doute pas. Et cette photo, je la garde précieusement. Quand on parle de l'arc-en-ciel, ça prend un temps non, pour disparaître. Mais c'était vite. Regarde. Et puis c'est tout. J'ai béni Dieu. Notre Dieu est bon. L'alliance qui est là pour l'éternité. L'alliance qui est faite par le sang de Jésus. Son sang nous lie pour l'éternité. L'alliance du sang. Ça nous fait vivre. L'alliance de l'homme et de la femme, c'est par la parole, par l'alliance devant le maire, devant l'église. Ça finit sur terre. Mais l'alliance avec Jésus est éternelle. Ça ne finit jamais. Quelqu'un est mort, il a versé son sang. Un homme est ici, sa fille a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était là du campus. Et quand j'ai prié pour elle, et Dieu l'a dit, cet enfant, je vais agir puissamment dans sa vie. J'ai dit, merci Seigneur. Un jour, elle m'a dit, pasteur, tu sais, pendant que je priais, je sentais comme si il y a de l'eau qui descendait sur moi. Et comme l'eau qui descendait, mais j'ai fait comme ça, mais il n'y a pas d'eau. Tout d'un coup, c'est comme l'huile qui descend sur moi. Je dis, mais je n'ai pas d'huile, mais c'est quoi ce phénomène? Et sans l'huile qui coule sur elle, l'huile qui coule tellement. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai dit, regarde le psaume. L'huile qui coule comme sur la barbe d'Aaron. Tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Elle est jeune, cet enfant. Dieu l'a rempli de l'Esprit, là, loin. Quelle bénédiction. Que Dieu puisse vous oindre aussi également. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Cherchez d'être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu va le faire. Il va le faire. L'Église est une continuité et puis une représentation. Jésus est parti, nous continuons l'œuvre. Jésus est parti, nous représentons le Seigneur. Première fois, on arrive à Actes chapitre 3. Pierre arrive avec Jean devant la porte du temple et il regarde un paralytique. L'homme croit qu'on va donner l'argent. Pierre dit simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a deux choses. Je viens devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la représentation. Jésus n'est pas là physiquement, il est là en moi, je viens en son nom. Deuxième, lève-toi et marche, c'est la continuité, les miracles. Le chrétien, nous sommes ceux qui représentent le Seigneur et ceux qui continuent l'œuvre. Nous continuons l'œuvre et puis nous représentons le Seigneur là où nous sommes. Deux choses, la continuité et la représentation. Le verset qui est là, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la continuité. Tu es dans la continuité de l'œuvre du Seigneur. Et tu représentes le Seigneur également. Le croyant, également un ambassadeur. Nous disons des choses de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aucun chrétien n'est plus grand que les autres. Chacun reçoit un bout de la grâce du Seigneur pour publier la grâce de Dieu dans le monde. Tu continues l'œuvre du Père. Tu peux imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Tu peux chasser les démons, ils vont partir au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la continuité. Tu es capable de chasser les démons, tu n'es pas peur du tout. Nous continuons l'œuvre du Seigneur. Cette vérité, vous la trouvez dans Luc. Quand Jésus va dire aux apôtres, ils étaient 72, il les a envoyés deux à deux dans l'endroit où, dans le lieu où il devait lui-même aller. Ils sont partis à sa place, deux à deux. Et au retour, ils étaient contents, mais... Seigneur Jésus, mais Seigneur, mais les démons, ils sont soumis en ton nom. Les démons ne sont pas soumis à nous. N'oubliez pas ça. Ils sont soumis à Jésus en son nom. Amen. Nous, on ne peut rien faire. Mais quand nous proclamons qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ, ils sont soumis parce que Jésus est à nous. Nous sommes dans la continuité. Et ne doute pas, on va expliquer ça dernière part de la délivrance. Comme quand tu parles de Jésus-Christ, sois fier, je suis dans la continuité. Je suis un ambassadeur. Je suis son représentant. J'agis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va accomplir des choses en toi. La guérison du paralytique, ce que j'ai dit, c'est ce que quand Pierre va dire, lève-toi. C'est la continuité. J'ai vu au nom de Jésus-Christ. Il est là comme l'ambassadeur du Seigneur. Quand tu agis, il y a deux choses. Ou c'est la continuité quand tu parles, ou tu es là comme représentant. Souvent, on est représentant, pas continuité. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Imaginez-vous, si un jour à Saint-Maur, parce qu'il vient d'être en train de prêcher, il entre ici dans Saint-Maur, un paralytique, et il dit au nom de Jésus, lève-toi! Et l'homme se met à marcher. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Maur? Je vous écoute. Il proclame ça. Et les paralytiques marchent. Qu'est-ce qui va se passer? Oh. Mes chers amis, les frères de Saint-Maur, ça sera quoi? Si le boiteux marche. Mais parlez quand même, chers. Vous ne voulez pas de miracle chez vous? Il y aura la joie. Il y aura les miracles. Les gens seront contents. Les voisins vont venir ici. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens viendront. Le miracle attire les personnes. En plus encore, quelqu'un vient ici, il est aveugle. On prie pour la personne, les yeux s'ouvrent. Les gens vont venir ici. D'abord, sa famille viendra. Ses cousins vont venir. Ses tontons vont venir parce qu'elle a vu. Ah non, allons là-bas. Allons là-bas, là, Dieu agit là-bas. Les gens viendront ici. Les signes, on en a besoin. Mais il arrive qu'aujourd'hui, il y a des théories qui passent dans ce monde ici. Ah, les miracles, c'est les apôtres. Hein. Maintenant, on n'en parlait plus. Hein. Les guérisons, oh, c'est les apôtres. C'est faux. Aujourd'hui, Dieu guérit les gens. Aujourd'hui, Dieu fait marcher les gens. Aujourd'hui, les gens sont libérés des forces du mal. Si nous croyons vraiment à ça. Alors, c'est mort. Vous voulez voir un miracle chez vous? Non, Jean, vous voulez voir un miracle chez vous? De voir un frère malade guéri par la prière, c'est un miracle. De voir une sœur malade guérie par la prière, c'est un miracle. De voir des guérisons dans l'église, c'est une bénédiction. Nous devons vivre ça. De voir les gens libérés, nous bénissons le Seigneur. On en a besoin que les gens soient libérés et soient guéris. Osons prier pour les malades. C'est Dieu qui va les guérir. Faisons-le. Faisons-le. Même si c'est un cas où on prie la personne meurt, c'est pas grave, mais on continue à prier pour les malades. C'est Jésus qui va les guérir. C'est lui qui va le faire. Nous sommes dans la continuité. N'arrête pas ce projet. Continue avec le Seigneur. Prie pour les malades. Pose les mains aux malades et prie pour eux. Que Dieu puisse les libérer. Cette femme, une femme avait le cancer. Ça s'annonçait déjà. Le médecin a dit, Madame, tu risques d'avoir le cancer. Révélez. Dans deux semaines, on va voir au niveau du vessie, au niveau de ses intestins. Elle me dit, pasteur, on va prier ensemble. J'ai dit, oui, on va prier. Pour quel sujet? Elle me dit, cancer. Le cancer, ça fait peur. Hein? Quand on dit prier pour les maux de tête, c'est pas grave, on pense au Doliprane. C'est grave, c'est pas grave. Quand on dit que j'ai mal au ventre, bon, on pense au Doliprane. Il va prendre, puis c'est tout. Mais cancer, ça fait trembler. J'ai dit, bon, on va prier. Alors, elle vient, elle m'explique son problème. Elle dit, c'est tout ce qu'elle me disait. J'ai des petits-enfants, pasteur. J'ai des petits-enfants à prendre soin. Tu sais, si je meurs maintenant, mais ces enfants-là, pensez pas à ça. Elle pleurait. C'est ce qu'on a fait. J'ai commencé par là. Seigneur, cette femme a des petits-enfants. Aie pitié. J'ai commencé par là, ma prière. Seigneur, elle a des petits-enfants. Elle veut prendre ses enfants. Aie pitié, guéris-la, Seigneur, je t'en supplie. Guéris-la. Fais qu'elle vive longtemps. On n'a pas chassé un démon. On a seulement rendu grâce au Seigneur. Elle a des petits-enfants. Elle pleurait. Et puis on a fini la prière. Elle est partie. Après, elle est partie voir le médecin. Ça fait deux semaines. Elle a vu voir le médecin. Elle a fait peur. Mais j'ai dit, c'est ma va avec foi. Christ fait des miracles. Le médecin va l'examiner et passe au niveau du scanner, on va tout voir, revoir les choses. Le médecin prend les résultats. C'était fait le même jour, il attendait, parce qu'il fallait fixer déjà le traitement. Quand le médecin est entré dans le bureau avec elle, elle tremblait. Elle dit que ça y est, je vais écouter la nouvelle, la mauvaise. Le médecin la regarde et s'approche d'elle. Elle lui dit, qui es-tu? Elle dit, mais je suis ta patiente, je viens souvent ici. Il pose la question. Tu pries? Elle dit oui. Ton Dieu là est vivant. Il n'y a rien, madame. Aucune trace. Tout est parfait. Un miracle. Un miracle. Rentre à la maison. Ce qui est pire, il fallait qu'il paye les frais de rendez-vous. Il dit, ne paye rien. Depuis que j'ai commencé à traiter les gens, je n'ai jamais vu ça. Madame, rentre à la maison. Tu es guéri. Alors moi, je ne savais pas. Elle m'appelle, passer, on va se voir. Je dis, ah, là, je vais écouter des histoires. Alors, quand j'arrive dans l'endroit où on devait se voir, elle entre, elle souriait. Pasteur, je suis guéri. Je suis guéri. Ah, on a chanté. On a béni le Seigneur. C'était gratuit, hein? On n'a rien payé. Jésus l'a guéri. Complètement guéri. Chers amis, osez prier pour les malades. Laisse Dieu agir. Amen. N'aie pas peur, pose ta main, prie pour la personne. Prie pour la personne. Lina, mon épouse, était malade ces jours-ci, elle avait très mal. J'ai prié une fois, ça continue. Deux fois, ça s'est aggravé. C'était bizarre, elle dit, est-ce qu'on voit le médecin, on va voir l'hôpital? Elle me dit, non. Troisième fois, c'est pire. Je dis, Seigneur, elle ne veut pas voir le médecin, mais guéris-la. Vous savez ce que Seigneur m'a dit? Ce sera le quatrième jour. J'ai attendu. Le quatrième jour, on se réveille, elle me dit, je me sens bien. Tout est parti. J'ai dit, merci Seigneur. Il m'a rappelé Jéricho. Il fallait combien de jours pour que les murs tombent? 7 jours. Une fois, deux fois, 7e jour, ce muret de Jéricho puisse s'écrouler. Il fallait 4 jours pour que soit complètement guéri. Alors prie. Prie. Ne laisse pas. Et tu verras la main du Seigneur. Prie. Tu verras cette main du Seigneur qui va agir puissamment. Après la continuité, il y a le vrai discernement. C'est ce que je disais au tout début, l'histoire de l'apôtre Pierre avec Ananias. Comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. Pierre avait un discernement. Souvent, il y a un danger, on dit oui, oui, oui à tout. Ne dis pas oui à tout. Réfléchis avant de dire oui. Pierre avait un bon discernement. Il a discerné que ce n'est pas juste. Que Dieu donne à chacun de nous un discernement. Discerner les choses. Discerner les choses avant d'agir. Ne rien faire sans avoir compris les choses. Qu'est-ce qui se passe derrière? Discerner les choses. Une eau tranquille cache beaucoup de choses. Vous savez, quand l'eau est tranquille, ce n'est pas tranquille, hein? Quand l'eau est tranquille, en dessous, il y a la saleté. Quand vous secouez l'eau, et la saleté va jaillir. L'eau n'est pas tranquille. Pierre avait discerné les problèmes d'Ananias et Saphira. Qui nous donne à chacun le discernement? Discerner ce qu'il y a. Ayons ce discernement-là pour comprendre les choses. Et Dieu va nous donner ça. Discerner ce qui se passe à l'église. Ce qui se passe pendant nos réunions, c'est ne qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Discerner les choses. Discerner. Quand tu es calme, ce n'est pas calme. Regarde de loin et tu verras que ce n'est pas calme. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement et ne t'en dessaisis pas. Recherchons la sagesse, le discernement du Seigneur. Et n'abandonnons pas ça. Recevons. Et gardons ce discernement. Ésaïe 11, verset 2. Ayons le discernement de tout ce que nous allons faire. Ne faisons pas par nous-mêmes qu'il nous éclaire par sa puissance. Et Pierre avait ça. Pour discerner les tactiques de l'ennemi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Discerner toutes choses. Discerner les prophéties, comme dit l'apôtre Paul. Discerner tout. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ou c'est bon? Et Dieu va nous éclairer. Troisième chose. Tu ne combats pas seul. Tu ne combats pas seul. Et par phrase, combattez dans la prière. C'est dans ce verset de Colossiens, chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qui motive notre combat? Qu'est-ce qui motive ton combat spirituel? Tu es motivé par quoi? Nous combattons dans la prière. Frères et sœurs, il y a 4 niveaux dans la prière. 4 niveaux. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça, mais je vous dis, si vous citez ces niveaux. Premier niveau, c'est l'introduction. C'est une fois l'introduction. Quand on est converti, c'est français compris, Seigneur, donne-moi. Je suis débutant, je découvre la prière. Deuxième position, c'est l'imitation. Je commence à lire la Bible et puis imiter ceux qui ont prié avant moi dans la Bible. Et puis à l'église, je veux imiter ceux qui prient, la façon dont ils prient. Ça, c'est imiter les autres. C'est aussi bien imiter comment ils prient, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce dit la parole dans la prière, je commence à imiter. Troisième niveau, c'est l'intercession. Je sors du moi, je commence à penser aux autres. Seigneur, je prie pour tel frère, pour telle sœur, pour telle personne. Les temps de prière vont changer. Juste un bout pour moi et la grande partie pour les autres. L'introduction, 99% c'est moi. 1% c'est l'autre. L'imitation, ça commence à changer un peu. Plus de 75% c'est moi, un peu l'autre partie c'est l'autre. Mais l'intercession, juste un bout c'est pour moi et tout le reste c'est les autres. Et quatrième niveau, c'est l'invasion. Je vais envahir le monde des ténèbres. Je vais repousser les forces des ténèbres. Là, je prie avec autorité. Je m'adresse à ceux qui tourmentent les chrétiens. Je m'adresse à ceux qui font mal aux chrétiens. Je n'ai pas peur de tout. Ça, c'est invasion. C'est le quatrième niveau. Introduction, imitation, intercession, et puis aller plus loin. Souvent, on est encore dans l'imitation, mais il faut aller plus loin, détruire les forces du mal. Dieu nous appelle à ça. Là, on a, là, ce que fait Ananias ici, il combat dans la prière. Il intercède pour les autres, il prie pour eux, que Dieu puisse les fortifier, les aider à grandir. Combattons dans la prière. Ça prend du temps. Alors, entre nous, ce n'est pas pour mesurer qui fait quoi. Qui a déjà osé prier pendant une heure du temps? Il prie pendant une heure. Pendant une heure, il prie pendant une heure. Merci. Qui prie pendant 30 minutes? Il a prié pendant 30 minutes. Et les autres? Qui prie pendant 2 heures du temps? Il a prié pendant 2 heures. Dans le combat spirituel, écartez les 10 minutes. Écartez les 5 minutes. Écartez ça. Le combat spirituel de la prière remonte, dépasse les 30 minutes. Soit reste dans la prière pendant longtemps. C'est en ce moment-là que l'Esprit Saint va te guider. Comment pourrais-tu prier pendant 30, pendant une heure du temps? C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est très simple. Commence par lire un texte. Tu prends ce texte-là, tu prends ça dans la prière. Prie par ce texte-là. Seigneur, tu as dit cette parole, voilà ce qu'il dit, voilà ce que moi je veux que tu fasses pour ce texte-là. Prie par le texte d'abord. Là, tu commences la prière. Je vous encourage de prendre les psaumes. Quand tu prends les psaumes, tu lis ce texte des psaumes, un verset qui te touche, commence par ce verset-là. Entre par ce verset dans la prière. Et quand tu vas avancer, tout d'un coup, il se peut que dans ton cœur, il y a un chant. Chante ce chant-là. Et quand tu finis, prie pour ce chant-là. Et tu continues à avancer. Ce n'est pas encore demander des choses. Tu commences par la parole, par le cantique, tu avances et tu avances. L'Esprit Saint va continuer à te pousser et tu vas plus loin. Tu vas plus loin. Tout d'un coup, si tu inspires un verset, tu penses à un verset qui finit dans ton esprit, prie pour ce verset-là et tu continues. Ce n'est qu'après que tu vas arriver, je me remets à toi Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne ceci, cela. Tu connais comment j'ai fait et c'est fini, tu continues. Tu feras une facilement. Un homme qui est parmi nous, je ne dirai pas son nom, il a fait 3 heures de prière. 3. Et pendant qu'il priait, il ne se rendait pas compte. Il priait. Il a fini de dire amen. 3 heures de prière. C'est beaucoup. Ce n'était pas lui, mais la grâce du Seigneur. Frère, c'est honteux en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, de prier 5 minutes. Jésus, je t'aime beaucoup, tu nous aimes beaucoup. Merci. Bénis notre église. Amen. Ah, Satan s'est moqué de toi. Il est bon. Continue comme ça. Tu viens le soir pour dormir, tu es devant le Seigneur, je dis merci pour la journée. C'était une journée merveilleuse. On a bien mangé, tout s'est bien passé au travail. Tu es le bon berger. Amen. Voilà. Les démons vont se moquer de toi. Satan a peur de l'église qui prie. Il a peur de l'homme qui prie. Quand tu pries, il a peur de toi. Il sait que là-bas, n'avance pas. Le feu est là-bas. La prière est un feu. Qui brûle. C'est un feu. Sois un homme de feu dans la prière. Et des prières d'autorité quand tu pries. Un exemple. Imagine-toi que ton enfant est malade. Et sa maladie tarde un peu à guérir. Tu vas prier, Jésus guérit ma fille. Tu vas prier comme ça. Ah, tu seras en colère, hein? Jésus guérit là, tu vas hausser le ton. Parce que c'est ton enfant. Parce que c'est ta fille, c'est ton fils. Et si c'est l'autre personne, comment tu vas prier? Nous haussons le ton quand les choses deviennent pires. Nous voulons hausser le ton. Mais non, on peut hausser le ton même si ce n'est pas pire. Nous déclarons que Dieu fasse des merveilles. Que Dieu fasse des merveilles. Nous déclarons, Seigneur, tu veux faire des miracles là-bas. Un pasteur dans son église, il m'a dit, j'ai écouté, c'est un grand témoignage, son église avait plus de 300 places assises. Et dans cette église-là, ils n'étaient pas nombreux. Alors un juge vient à l'église. Il vient le matin tout seul, la journée. Il écrit des petits bouts de papier, il met sur chaque chaise. Il dit, Seigneur, je mets ce feuille-là pour que les gens s'assoient dessus. Que les gens s'assoient là. Envoie des gens parce qu'il y a de la place ici. Envoie des gens, Seigneur. Chaque fois qu'il prie pour ça, envoie des personnes. Envoie des personnes, mets les gens là-bas, Seigneur. Et il venait souvent le matin, il venait prier pour ça, prier pour ça. Le dimanche matin, il disait aux frères et sœurs, asseyez-vous devant, laissez la place derrière pour les frères qui vont arriver bientôt là. Les gens vont arriver bientôt. Mais les pasteurs, ils ne sont pas là. Ils vont arriver bientôt. Ils vont arriver bientôt. Les gens disaient, mais c'est quoi ces pasteurs-là? Ils vont arriver, ils vont arriver, ils vont arriver. Et ils prennent avec autorité. Les gens commençaient à arriver. Ils me disaient, à l'église, il ne faut jamais que les gens laissent des trous. Il faut que tout se mette devant, laisser la place derrière pour les gens qui vont arriver. Amen. Donc, chez nous, à nos gens, on sera assis devant. On fera ça pour demain déjà. On laisse la place derrière pour ceux qui vont arriver. Demain, à Saint-Maur, ici, on se mettra devant. Laisse la place derrière pour ceux qui vont arriver. C'est la foi. Les gens vont venir. Ils vont venir. Les gens vont arriver. Ils vont arriver. Si on se met devant, Seigneur, il y a de la place là derrière. Comble le vide. Il va combler le vide. Ne nous mettons plus derrière. Mettons-nous devant. C'est là-bas, les gens vont arriver. Croyons en ça. Et Dieu va agir. Parce qu'il y a de la chaise, des chaises, non? Nous, on a un défi chez nos gens. On a osé construire un bâtiment, on va construire 250 places assises. C'est chaud, Michel. 250 places assises. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu crois qu'il y aura... J'ai dit, j'ai déjà cru. Jésus va combler ces places-là. Il me dit, mais on n'est pas nombreux. Jésus va combler ça. Alors, un pasteur m'a dit, mais... Tu as fait combien? On a fait 250 places. Mais c'est trop peu, il faut faire 1000. Il faut faire plus. J'ai dit, mais on a à peine 250. Mais non, il faut dépasser. J'ai dit, on aura des différents cultes. Amen. Michel, amen. Merci, Michel. Le matin, de 9h à 11h, 250 places assises. De 11h30 à midi, midi 30, encore une partie. C'est possible. C'est possible ici aussi, par la foi. Dieu peut le faire. Il y a de la place derrière. Mettons-nous devant, il y a la place derrière que Dieu va faire. Parce que Dieu est fidèle. Alors, qu'est-ce qui nous motive à prier? Nous qui sommes l'armée du Seigneur. Il y a des motivations. Il y en a quatre. Mon identité me pousse à combattre. Je suis enfant de Dieu, je dois prier. Parce que je suis chrétien, disciple, ça me motive à combattre. Ça me motive à avancer. C'est que je suis fils de Dieu, je combats. Jésus s'est réveillé tôt le matin, il allait prier. Alors, essayez un peu de finir. Vous savez qu'on aime tellement dormir. Je ne suis pas contre ça. Tu t'es réveillé à 8 heures. Le monde a déjà commencé à fonctionner. C'est tard, non? Demande-lui, réveille-moi tôt, Seigneur, très tôt. Il va te réveiller à 5 heures, à 4 heures. C'est bien, non? Oh, mais c'est bien. Seigneur, réveille-moi tôt. Il aime ça, il va te réveiller à 4 du matin. Il y a un frère qui m'a dit, je n'avais plus sommeil vers 3 du matin. Et ça m'ennuyait beaucoup. J'ai regardé la télé, c'est 3 du matin. J'ai dit, mais Fred, tu n'as rien compris. C'est l'occasion de parler au Seigneur, 3 du matin, c'est génial. Lève tôt. Ceux qui lèvent tôt, on dit ceux qui sont qui réussissent. Ceux qui lèvent tôt sont ceux qui arrivent dans le combat bien avant. Il prépare la journée. Ton identité, ton Seigneur, toi, Jésus, ton Seigneur, s'est levé tôt. Il allait dans la prière. Et puis, il passait toute la nuit dans la prière. Tu es marié. Tu aimes beaucoup ta femme. C'est très bien. Mais un jour, laisse-la au lit. Va au salon. Mets-toi à genoux. Toute la nuit dans la prière. ça sera génial. Amen. Oh, les mariés. Amen. Ta femme me dit, mais où est-ce qu'il est passé celui-là? Il va te trouver à genoux, tu cries devant le diable, le détruit au salon. Ah, mon mari est devenu génial. Laisse-le sur le lit, va prier. Laisse-le. Souvent, quand je ne suis pas dans le lit, je ne suis pas là, il me dit, mais ah, il est parti déjà. J'aime prier le matin, tard la nuit. Ça fait du bien. Ou passer toute l'heure dans la prière, vers 23h, vers minuit quand tout le monde dort, déplace avec ta Bible. Alors descends au salon. Commence à prier. Commence à prier. Minuit, 1h du matin, continue à prier. 2h du matin, continue à prier. C'est un homme et une femme de prière. Si tu veux gagner le combat. Tu veux que Dieu fasse des choses à ses morts. Mets-toi à prier, seul dans le salon. Madame Hélène, laisse les passeurs au lit et va au salon. Oublie ton prince charmant. Mets-toi à genoux. Seigneur, tu m'as confié l'église à ses morts et fais quelque chose. Laissez s'ouvrira. Il y a qui laisse un peu ta princesse à côté. Va au salon. Prie pour l'église. Ça, c'est le combat. Laisse. Et retire-toi dans la prière. Michael, tu as des parents formidables. Laisse ton mari charmant et va prier. Toute seule. Anne a fait ça. Pendant des années, on l'a écrasée stérile. Elle pleurait tout le temps pour rien du tout. Un jour, Anne a compris. Ça suffit. Elle s'est retirée toute seule. Elle a dit, ces jours-là, elle est toute seule. Elle commence à prier. Et l'enfant était arrivé. Laisse les autres voir. Laisse ton mari. Laisse tes enfants. Retire-toi. Tu veux vaincre dans ce combat? Retire-toi. Quand je vais aborder le point de délivrance, il te faut la prière. Il te faut être à genoux. Mon père spirituel, c'est un pasteur qui est décédé il y a longtemps. Un jour, il m'a dit, viens ici. J'étais un homme strict. Il me dit, essaie d'avancer ton pantalon, montre-moi tes genoux. Je dis, mais c'est quoi ces pasteurs-là? Il dit, mais tes genoux sont propres, tu ne pries pas. J'ai dit, mais... Il dit, tu ne pries pas, c'est tout propre là, c'est quoi ça? Douche froide. J'ai eu chaud. Mais la prochaine fois, quand je le verrai, il faut que je change de couleur. Quel défi! Ça passait un long moment et je m'a dit, viens ici, viens. Je suis venu chez dans son bureau, il m'a dit, montre-moi tes genoux. Je l'ai montré, ah, ça commence à changer. C'est bien. Un homme de prière. Je dis, je n'ai pas de vous montrer vos genoux. À la maison, regarde tes genoux. Est-ce que c'est encore propre? Si c'est propre, c'est pas bien. Plie tes genoux devant le roi des rois. Entre dans le combat et allez-y. Mets-toi à genoux. Souvent on dit, ça me fatigue. Mets-toi à genoux. Si tu n'arrives pas, assis-toi par terre. Assis-toi et parle-lui. Seigneur, je suis là. Je réponds au rendez-vous avec toi. Mets-toi à genoux. Regarde tes genoux. À la maison que tu vas rentrer ce soir, regarde un peu tes genoux. Est-ce que c'est propre ou c'est sale? Regarde un peu. Michael, regarde tes genoux. Regarde un peu le genou. C'est comment? Si c'est encore propre, change les choses. Ça doit changer. Mets-toi à genoux. Jésus a tout fait et nous entrons avec lui dans sa grâce pour accomplir son œuvre. Nous sommes dans la continuité. Nous continuons avec lui et dans sa bonté. Notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. On agit par rapport à qui nous sommes, enfants de Dieu. Ça nous motive à prier. Ça nous motive à chercher la face du Seigneur. Ça nous motive vraiment. Deuxième motivation, nous avons un regard de ce monde ici, un nouveau regard. Le monde est dangereux, il faut que je prie. Si le monde est un ordre paisible, tu ne prieras pas. Si le monde est compliqué, tu vas prier. Tu vas prier vraiment. En regardant le monde, ce qui se passe, ça va te pousser à la prière. Regarde le monde et prie. Lève les yeux, regarde ce monde, comment ça fonctionne. Tu vas prier le Seigneur. Troisième chose, l'avancement du règne de Dieu. Nous voulons que ce royaume puisse avancer. Alors je dois prier pour que les gens soient sauvés. Prie pour ton voisin. Prie pour les voisins de l'immeuble. Prie pour ton collègue de service. Que Dieu puisse agir en lui. Prie pour lui. Prie, prie. Que Dieu puisse intervenir. Prie. Et Dieu fera des merveilles. Ça, c'est la motivation. Et voilà ce verset, ce que dit David. On peut lire ça ensemble, ce verset? Allons-y. David dit, tu as insulté Dieu. Dieu d'Abraham, hein? Tu l'as insulté. David dit, mais c'est pas possible. Je marche devant toi en son nom. Je vais te détruire. Goliath insultait le Dieu d'Israël. Tous les soldats juifs étaient passifs. Ah, mais il est grand, hein? Ah, lui, il ne fera rien. Mais cette histoire d'insulte devant le Seigneur, ça l'a mis en colère. Il dit, je vais te détruire, Goliath. Je vais devant toi au nom de ce Dieu-là, du Dieu des armées, que tu as insulté. Et je vais te détruire. Parce que Satan fait mal aux chrétiens, fait mal à ce monde. Ne reste pas les bras croisés. Agis. Agis. Agis vraiment. Quand tu vois les jeunes gens qui sont dans la débauche, dans le mal, dans le péché, tu regardes ces choses-là. Agis. Prie. Pour que les choses changent. Pour qu'ils soient libérés. Tu peux faire quelque chose pour eux. Tu peux le faire. Agis. Enfin, le dernier point. Les armes préparées pour l'Église. Nous avons 5 armes. Première arme qui est préparée, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous savez, le nom de Jésus, sans la prière, sans la sainteté, ça ne fait absolument rien. Tu peux dire qu'un démon sort au nom de Jésus, quand tu es dans le péché, c'est froid. Ce nom en soi-même est très puissant. Mais quand tu le prononces, ça passe à travers ta vie. Ce que tu es, ce que tu vis avec le Seigneur sera puissant dans l'action. Dieu nous répète toujours ça. Soyez saints car je suis saint. Ta sainteté va jouer beaucoup quand c'est son nom. Au nom de Jésus-Christ, parce que moi, je suis en relation avec lui et je vis avec lui. Le nom de Jésus, c'est l'arme première du départ pour laquelle on peut chasser les démons. Au nom de Jésus. Deuxième arme, c'est la parole du Seigneur. C'est quand nous chassons les démons, on s'appuie sur la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Troisième arme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre et couvre la personne. Et ce sang aussi détruit les forces du mal. Quatrième arme, c'est la foi. Par la foi, nous chassons les démons. Et cinquième arme, c'est le don du Saint-Esprit. Le nom de Jésus, la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ. J'ai prié pour quelqu'un qui est possédé, je proclame le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus m'a dit que le sang de Jésus te traverse, tout d'un coup, la personne commence à crier très fort. Les démons disent, ils commencent à parler, nous vous allons partir, laissez-nous, on veut partir. Et j'ai dit le nom de Jésus-Christ. J'ai proclamé le sang de Jésus de l'Alliance. J'ai dit que ce sang soit réel dans sa vie maintenant. La personne commence à crier. Les démons disent, écoutez, on va partir. On ne veut plus rester là. Le sang de Jésus est puissant. C'est comme un feu. Et puis la parole de Dieu, quand tu la proclames devant un homme qui est possédé, les démons savent que oui, c'est vrai. Ils vont partir. Du coup, méditez la Bible et puis il faut avoir en vous la parole de Dieu, la mémoriser. Et enfin, le don du Saint-Esprit. J'en ai mis trois. La parole de connaissance, discernement des esprits et le parler en langue. Il dit ça rapidement. Parole de connaissance. Vous regardez la personne pendant la délivrance, Dieu vous dit, cette personne, il y a ça et ça et ça dans sa vie. Cette parole de connaissance est particulière. On vous révèle qui est la personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça, c'est la parole de connaissance. C'est un don qui est important dans la délivrance. Une dame qu'on priait pour elle avec des frères, il y a longtemps, on priait pour elle, ça ne marchait pas. Un jour, cette femme était là dans la prière. Pendant qu'on priait, on a une parole de connaissance. Alors un frère Dieu lui a dit, regarde, elle porte des gris-gris ici autour de sa hanche. C'est pour cela qu'il y a l'obstacle dans cette délivrance. Le frère a dit à cette dame, madame, tu as quelque chose ici, au niveau de tes hanches, que tu gardes. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Et ça bloque la délivrance. Elle nous regarde et dit, mais personne ne sait, lui, Dieu sait. Elle se retire, elle enlève ça, elle nous montre. Or, c'était sous ses habits. Personne ne voyait. Mais ce frère a vu ça. Et quand on enlève ça, on dit, ça vient d'où? C'est une longue histoire. Et on a prié pour ça, on a brisé la puissance du mal qui était dans ça. Et quand on a prié pour le lendemain, elle était guérie. Les choses ont marché. Chers amis, la parole de connaissance est très importante dans la délivrance. C'est très important. Ça peut dévoiler ce qui bloque la délivrance. Pour pouvoir aller plus loin et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. On priait pour une personne, puis une sœur, il y a longtemps à Kinshasa. On priait pour elle et la délivrance a bloqué tout le temps. Or, elle nous a menti de ce qu'elle a fait avant. Et pendant qu'on priait pour elle, à la fin, je lui ai dit simplement, tu as dit quelque chose que tu ne veux pas dire, dis quelque chose que tu as fait avant, dis-nous. Elle dit, mais ce n'est pas de dire à vous les garçons, il faut une fille. On appelle une sœur et dit, écoutez-la, ça fait, elle a fait des choses horribles qu'elle ne peut pas dire ici. Elle a expliqué tout ce qu'elle a fait, des choses pas bien du tout. Et cette sœur nous a rapporté ça, on a prié pour elle, elle était libérée. Chers amis, il faut la parole de connaissance. Dans cet cas, savoir ce qu'il y a. Enfin, vient après le discernement des esprits. Ce don est particulier, à trois niveaux. Parfois, tu peux t'ouvrir les yeux pour voir des démons qui sont en train d'agir là-bas. Tu peux le voir. D'autres, parfois, tu entends la voix. Parfois, tu entends des démons qui parlent. Et il y a des gens qui ont ce don-là. D'autres aussi, tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais dans ton cœur, il y a des convictions que cette personne est possédée. Ce don est important pour la délivrance aussi. Ça nous aide à aller plus loin pour la délivrance. Au début, tu ne connaissais pas ce don. On priait pour les gens, c'était très difficile, c'était compliqué pour les gens de se libérer. Ça nous embêtait souvent. Alors un jour, il y avait un pasteur qui était là, un frère, maintenant il est pasteur, c'était un frère à l'époque, et il était présent avec nous, il arrive, et nous on priait, ça a duré longtemps. Quand il est arrivé, il dit, mais c'est pas difficile, pourquoi vous traînez comme ça? Il arrive, nous on dit, mais on est fatigué, ça fait longtemps qu'on priait, les démons ne partent pas. Mais quand il est arrivé, il rigole, il dit, mais c'est simple tout ça. On a fermé les yeux, il appelle les démons par son nom. Nous, on ne savait pas. Il dit, je te vois, et là où tu es. C'était simple, il n'a pas crié du tout. Je te vois là où tu es, lève-toi maintenant. On dit, mais quel spectacle. Lève-toi là où tu es, et sors au nom de Jésus. Et c'était fait. Même pas 5 minutes. Et nous, on a dit, ah, ça fait longtemps qu'on était là. La puissance et l'autorité que Dieu donne à ses frères-là. Il est à Paris, il n'aime pas qu'on en parle de lui. Il a cette grâce. Chers amis, il nous faut ce don. On est baptiste. Oui, on est baptiste. Ici, on est baptiste. Non, vous aussi. Je ne sais pas s'il y a ces mots ici, vous parlez en langue ici. C'est interdit. À nos gens, on n'en parle même pas. Parce qu'on est baptiste. C'est la philosophie baptiste. Et moi, je comprends. Si on ne suit que les baptistes, Satan va nous écraser. Suivons ce que dit la Bible. Oui, on est baptiste par rapport à la fédération, oui, ok. Mais que dit la Bible? Suivons ce que dit les Écritures. Si un jour ici, à Saint-Maur, quelqu'un parmi vous parle en langue, est-ce que vous allez le chasser? Je ne sais pas. Si un jour, à nos gens, quelqu'un parle en langue, est-ce que vous allez le chasser? Je ne sais pas. Quelqu'un commence à vivre des dons particuliers. Laissons-les agir. Laissons-les agir. Le parler en langue, c'est une grâce aussi particulière qu'il te donne. Parfois, ça arrive, pendant qu'on prie pour les personnes possédées, que tu parles en langue. C'est bien aussi. C'est un don qui est intéressant. Mais demandons au Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Donne-nous ces dons-là. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Demandez aux dons spirituels. Demandez ça au Seigneur. Il peut vous le donner aussi. Hein? Mais s'il vous donne ça, soyez humble. Si Dieu vous ouvre les yeux, Satan va trembler. Mais souvent, quand on ne sait pas ce qui se passe, il agit dans le silence et il nous fait mal. Que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Enfin, que vous voyez et que vous parlez avec l'autorité et la puissance du Seigneur. Ayez ces dons-là. On en a besoin. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Et les démons vont trembler. Ils vont fuir quand vous êtes là. Je l'ai dit la dernière fois ici. L'église qui m'invitait, quand j'entrais, quand je mettais debout devant la chaire, j'avais des fourmis dans mes jambes. Très très fort des fourmis, je dis, ça va pas ça. Alors un jour, je suis venu, bon, j'étais vraiment curieux, je suis venu avant. Je suis venu là-bas, je regardais, j'étais assis derrière, je regardais cette chaire-là. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je regardais avant que les gens arrivent, j'étais venu très tôt ce jour-là. Et les gens venaient petit à petit, il y avait un frère qui était là, qui arrangeait la salle. Moi, je regardais. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Christ ne m'a rien dit. Et quand je mets mes pieds là, ça ne va pas du tout. Un jour, j'ai dit au frère, est-ce qu'on peut venir tôt avec toi ici? Je suis venu tôt. Et j'ai dit, Seigneur, quand je mets mes pieds là, au nom de Jésus, que ça s'arrête. Et quand j'ai prié comme ça, depuis ce jour-là, c'est fini cette histoire-là. Après, j'ai écouté une dame qui m'a dit, membre de l'église, quand j'ai parlé avec elle, m'a dit, vous savez, parfois, j'ai prié pour l'église, mais j'ai vu qu'il y a une présence bizarre devant la chair. J'ai dit, c'est ça. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui m'a fait mal. À l'église, là où les gens prêchent. À l'église. Où est Jésus? Où est sa puissance? Je n'ai pas dit ça à leur pasteur. Je sais que ça sera terrible. Comment l'esprit du mal peut se localiser là pour faire mal au prédicateur? Pourquoi? Et l'église est là. J'ai compris, c'est la prière. Il n'y a pas la prière de feu qui peut faire trembler le diable. Si on prie à l'église, ça va chauffer et le malin va partir. Vous avez vu un film ou un livre où on parle de la chambre de la prière? Vous avez vu ça, ce livre-là? Dans ce livre et un film-là, il y a une chose qui est remarquable. La pièce où la sept dames priait beaucoup, ça sentait la prière. La prière a imprégné les murs. Qu'est-ce que c'est ça? Quand vous entrez ici, qu'on sent la prière. Pas la couleur, pas ces histoires, mais comme ça, ici, je sens la prière. Souvent dans nos églises, nous sentons la couleur de l'église. Nous sentons l'odeur de nos chaises, de nos bancs, mais nous ne sentons pas le feu de la prière. Qu'on sente la prière, le feu de la prière ici. Ce qui entre ici, les messies, ici on prie, ici. Qu'on sente la prière à nos gens, à Noisy-les-Grands, ici, à Saint-Maur, partout, qu'on sente la prière. Amen. Chers amis, tu as du temps à la maison, demande au pasteur Nguyen, donne-moi la clé, je venais prier à l'église, viens prier ici, monte ici. Prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons que ces nuits soient impactées, touchées de la prière. Qu'on voit la prière ici, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Fais-le, Seigneur. Demande la clé à Madame Hélène qui est là. Demande la clé. Je vais prier à l'église. Entre à cette salle ici. Mets-toi là à genoux et prie pour cette église. Et tu verras le feu descendre. Souvent, on n'a pas le temps. On est trop pris. Non, stop un peu. Revenons dans la prière. Venons ici. Venons ici. Les gens me disaient hier, me disaient, tu peux parler de ce combat spirituel. Mais la clé, il faut qu'ils apprennent à prier. Il faut qu'ils prient. Alors prions le Seigneur. Alors prions le Seigneur. On peut jeûner des jours et des jours pour le Seigneur. Venons ici, jeûner et prier. Cherchons la face de Dieu. Vous savez, les églises, parfois, ce n'est pas beau. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de grands instruments. Les couleurs, ce n'est pas de bonnes couleurs. Mais quand vous entrez, vous sentez la prière. Ce n'est pas beau. Le mur n'est pas formidable, mais il y a une présence de Dieu à l'intérieur. Un homme est venu dans une église. Quand il est entré, il m'a dit, je sens Dieu ici. Un homme, c'est un homme charismatique. Il dit, mais il y a une présence. Le Seigneur est là. Mais l'église n'est pas, c'est moche. Des bancs, un peu bizarre. Mais le Seigneur, il prie beaucoup. Il dit, Jésus est là. Je sens sa présence. Je ne juge pas. Si quelqu'un entre ici à la porte, qu'est-ce qu'il sent ici à ces moments? Il sent quoi? Il sent quoi? Dans vos maisons, quelqu'un dans ta maison, au salon, qu'est-ce qu'il sent? Tes belles chaises, ta belle table, dans ta chambre, il sent quoi? Qu'est-ce qu'il sent? Un homme priait. Il a mis devant lui son portable. Il était devant lui parce qu'il voulait qu'il lise des versets. Et il priait. À la fin, il passait mon pote sans sentir ce que je disais. Parce que j'ai beaucoup prié. Frères, sœurs, prions pour nos églises. Entrons ici. Venons ici. Est-ce que l'accès est interdit pendant la semaine? On peut venir ici la semaine? Madame, elle a dit oui, hein, on peut venir. Demandez la clé. Toujours ouvert. Nous n'en avons pas que des salles. On aura bientôt. Venez. Venez ici. Surtout, montez ici. Et mets-toi à genoux. Et prie. Amen. L'air est passé vite. On va aborder le point le plus compliqué, la délivrance. Ça sera vite. Mais il faut que vous priez. Il faut que vous jeûnez aussi. Je ne suis pas plus que vous, chers frères. La nuit du matin, je me réveille et l'infidélité, ça sent bon. Je dis, bon, on va prendre l'idée. On arrive là, tout d'un coup, donne-moi ta journée. Seigneur, mais je n'ai pas prévu de jeûner aujourd'hui. Et tu veux forcer un peu pour chercher le compromis, mais au fond, jeûne, donne-moi cette journée. Et tu ne vas pas manger. Cherche la face de Dieu. Il arrive qu'on va jeûner, je saute un repas après. Ce n'est pas bon, chers frères. Sauter un repas, c'est rien du tout. Tu sais, le matin, tu prends un petit déjeuner et tu manges à midi. Ça, c'est pas gêné, ça. Moi, je dis ça, c'est jouer. Parce que tu peux ne pas manger le matin, non? C'est normal, non? Et tu manges à midi. Tu peux sauter deux repas. Toute la journée, mets-toi en prière. S'il arrive que quelqu'un de ta famille est malade, très malade, proche de la mort, tu vas gêner, hein? Tu vas gêner sérieusement. Mais si tout est calme, pourquoi ne pas gêner? Faire prendre une journée de prière. Du matin au soir, tu n'as pas mangé. Un jour, deux jours, trois jours, tu fais que prier le Seigneur. Tu verras les choses changer. Amen. Tu veux que les choses changent, mets-toi à genoux et prie. Nous allons prier. Père, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Nous sommes une église, nous sommes une armée. Tu nous appelles à combattre. Fortifie-nous, Seigneur. Et rends-nous sensibles à ta voix. Seigneur Jésus, tu connais nos faiblesses dans la prière. Relève-nous, Seigneur. Donne-nous à aimer la prière et à chercher ta face. Sincèrement. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Vous êtes formidables. On prend la pause. On fera très court pour qu'on devienne terminer avec ces quelques points de la délivrance. Faisons vite.